sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Que se passe-t-il à l'Académie des Beaux-Arts ? La photographie est à l'honneur pour ce premier numéro de « Sur le pont des arts ». Forte de 49 membres élus, l'Académie a pour mission principale de veiller à la sensibilisation des arts. Elle concourt à sa mesure au développement des relations artistiques. Les académiciens sont répartis en 8 sections, dont l'origine remonte pour certaines d'entre elles à l'existence des académies royales. La peinture, la sculpture par exemple, sont donc entrées à l'Académie avant la Révolution française. Mais le temps ne fait pas la légitimité et la photographie, la benjamine de ces sections, a fait son entrée sous la coupole de l'Institut de France au XXIe siècle seulement. Récente, créée en 2005, elle apporte l'image d'un nouveau souffle à l'Académie depuis l'élection en 2010 de deux photographes de renom, Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand. Est-ce parce que l'entrée de la photographie à l'Académie était attendue depuis 150 ans que l'académicien Marc Ladret de la Charrière voulut saluer l'événement historique par la création d'un nouveau prix en 2007, un prix de la photographie. Mis en œuvre rapidement, dans l'élan de la nouveauté, le premier prix de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts fut attribué en 2007 à Malik Nejmi pour son projet « L'ombre de l'enfance », à Jean-François Sprissigaud en 2008 pour « Anima » et à Thibaut Cuisset en 2009 pour « Campagne française fragment ». À travers les nombreux prix qu'elle distribue chaque année, l'Académie des Beaux-Arts encourage tout particulièrement les jeunes artistes. C'est le cas de ce tout jeune prix de la photographie, attribué sur concours, qui pour la 4e année vient d'être décerné aujourd'hui même, vendredi 22 octobre 2010, à une jeune photographe professionnelle, Marion Poussier, pour son projet « Les sentiments du quotidien ». Dresser un portrait de la société actuelle française en croisant les générations, tout en rendant compte de l'évolution des familles, telle est l'ambition de cette jeune lauréate, née en 1980, représentée par la galerie Agnès B. C'est sur les liens familiaux que la jeune photographe souhaite porter son regard sur leur complexité, entre moments ordinaires du quotidien et mise en scène des apparences pour les mariages, les baptêmes ou les repas de famille. Marion Poussier entend revisiter le genre des photos de famille qui parle à tous. Ces moments sont pour elle, selon ses mots, un moyen de poursuivre son travail d'enregistrement des sentiments du quotidien. Sentiments guidés par celui que l'on est, celui que l'on voudrait être et celui qu'on donne à voir. En ce moment, elle présente « Récréation » au sein du projet collectif France 14 à la Bibliothèque nationale de France du 30 septembre au 21 novembre 2010. Découvrez aussi ces photos à l'exposition collective intitulée « Vieux » à la Cité de la Santé, Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris jusqu'au 14 novembre 2010. Les quatre finalistes, cette année du prix de la photo, Académie des Beaux-Arts, étaient Marion Poussier, Denis Rouvre, Lizzie Sadine et Toshio Shimomura, qui étaient présents le 22 octobre auprès des membres du jury et de Marc Ladret de la Charrière, mécène du prix, au moment de la proclamation du prix de l'année 2010. À l'Institut de France, le 22 octobre, l'ambiance de la proclamation. Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand et Marc Ladret de la Charrière et la lauréate ont prononcé quelques mots.
Quelques considérations générales sur cette 4e édition. Ça semble incroyable, c'est déjà la 4e. Devant la qualité et la maturité croissante des candidatures reçues cette année, nous avons choisi moins de finalistes cette année, ce qui peut paraître paradoxal. Mais ce qui a été guidé par notre souci de mettre plus à l'honneur ces quatre projets magnifiques, chacun dans un genre très différent. Cela n'a pas été sans déchirement, bien sûr, puisque nous avons été conduits par cela même à écarter des propositions de très grande qualité, et croyez-moi, il y a eu beaucoup de dossiers présentés. Je rappellerai brièvement deux caractéristiques du prix, qui est premièrement conçu comme une bourse, ce qui conduit le jury à juger des projets, non des réalisations, ce qui oblige à une forme de projection sur la capacité du photographe a réalisé, au vu de ses travaux antérieurs, un projet ambitieux sur le plan esthétique. La seconde réside dans l'absence totale de figures imposées. L'artiste a toute liberté, d'où la très grande variété des projets présentés qui fait toute la richesse de ce prix et toute la difficulté de la tâche du jury.
Donc voilà. Alors il y avait 4 finalistes. Marion Poussier, que moi je ne connaissais pas, qu'elle est très connue, qu'elle a une exposition à Arles, je crois, cette année, mais je trouvais ça formidable, qui a proposé un projet à la fois sensible et ambitieux, intitulé « Les sentiments du quotidien ». Marion Poussier souhaite rendre compte des liens unissant plusieurs générations au sein de familles d'aujourd'hui afin de dresser un portrait de la société française actuelle et notamment de la diversité, de la complexité des modèles familiaux qui la composent. Moi, j'ai été étonné de sa maturité et voilà, ce que j'ai vu est assez nouveau et on n'est pas souvent étonné en photographie. C'est ça ce qui m'a épaté. Elle est là ? C'est laquelle ? Voilà, bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé tes photos. Voilà. Denis Roux, il est là, Denis ? Denis, encore une fois, un grand photographe qui chaque fois se renouvelle. Moi j'adore, parce que ce photographe fait pas mal de pubs, mais surtout des travaux personnels, un travail personnel important. Voilà, c'est un grand photographe français qui nous a présenté un travail sur les Sadous, magnifiquement photographié. Voilà, c'est une photo qui me parle et bravo encore une fois de plus. Lise Sadin, bah, elle encore, une vieille connaissance, hein. Là, on se connaît depuis longtemps, qui a un projet très ambitieux sur le trafic d'êtres humains à des fins de prostitution. Elle est toujours quelqu'un de très engagé. Voilà, c'est une photo qu'on aime tous, voilà, à travers femmes et mineurs à vendre. Lise Sadin souhaite témoigner de ce nouvel esclavage qu'est le trafic des femmes organisé à l'échelle mondiale, en rendant compte de la situation de ce phénomène terrible dans 4 pays, que sont la République tchèque, la France, l'Israël et l'Inde. Bravo. Toshio Shimamura, que je ne connais pas, c'est vous, monsieur, voilà, qui a un projet plastique magnifique sur le plan artistique sur les fleurs. Voilà, ça nous a beaucoup touchés. À partir de ces interrogations personnelles sur le rôle de la photographie comme révélateur de l'invisible. Bravo.
Mais il fallait bien en retenir qu'une seule cette année, donc vous avez le choix entre ces 2. Et finalement, le jury a retenu Marion, que je demande de me rejoindre maintenant. Bravo. Bravo Marion. Bien sûr, allons maintenant à Marion.
Donc je vais te dire un petit mot.
C'est... Tu nous aimes.
Oui, je vais dire merci parce que je pense que les 3 autres finalistes qui sont là et tous les photographes qui doivent être dans la salle, c'est dur de mener des projets et de trouver les sous pour le faire. Et c'est important qu'il y ait des prix, des bourses qui existent pour ça. Et donc je suis très contente d'avoir cette bourse pour faire mon travail. Et je vous remercie tous.
Ce prix doté de 15 000 euros n'est pas seulement un prix de photographe pour un photographe, mais un prix décerné par des artistes à l'un d'entre eux. Des peintres, des cinéastes, le sculpteur Cardot, l'architecte Jacques Rougerie, l'homme de lettres Marc Fumaroli de l'Académie française, sont membres de ce jury auprès de Yann Arthus-Bertrand, Lucien Clergue et Marc Ladret de La Charrière. La proclamation du prix de la photographie est associée à un autre événement, celui du vernissage de l'exposition du lauréat de l'année précédente, qui présente le travail qu'il a mené avec l'attribution du prix. Amateur de paysages, Thibaut Cuisset a une façon bien à lui de révéler ses lieux laissés de côté. C'est un artiste reconnu, né en 1985, qui est dans le champ de l'art contemporain, le spécialiste d'une photographie de paysage à la fois documentaire et sensible. Il en saisit l'épaisseur grâce à sa chambre photographique sur pied qui lui permet de s'ancrer pleinement dans le paysage choisi. Écoutons-le parler de sa démarche de photographe.
Depuis 25 ans, vous parcourez le monde et les régions françaises en tant que photographe professionnel. Quel est votre angle de vue sur ces territoires et que représente-t-il pour vous ?
Alors effectivement, depuis 25 ans, je pratique la photographie de paysage et c'est lors d'un voyage dans le bassin méditerranéen, plus exactement au Maroc, que j'ai commencé à faire la photographie de paysage, parce que je me suis rendu compte que c'était une manière de dire le pays. dire le pays à travers ses paysages. Parce que j'étais parti à l'époque pour faire un carnet de voyage avec des photographies plus fugitives en noir et blanc, ponctuées de photographies de bord de route qui décrivaient des paysages, qui étaient faites en couleur, ceci, et à la chambre grand format, sur pied, avec une certaine distance par rapport à mon sujet. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était à l'issue de ce voyage que c'était là qu'aurait résidé l'essentiel du travail photographique que j'avais réalisé sur ce pays. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire les pays à travers leurs paysages, autour du bassin méditerranéen, essentiellement sur des espaces qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder, des paysages où il y a souvent des traces de l'homme. Et j'ai photographié ainsi le Maroc, l'Égypte, l'Italie, l'Espagne. Et après, j'ai élargi ma palette tout en travaillant toujours sur des sujets qui étaient des paysages un peu incertains, qui étaient peu représentés à l'époque, les périphéries des grandes villes, les espaces intermédiaires entre la campagne et le centre-ville traditionnel, ou entre la campagne et les espaces sauvages, mais toujours des paysages où il y a des traces de l'homme. Et donc ensuite, pour varier les territoires, les lumières, je suis allé au Japon, je suis parti aussi dans des espaces désertiques en Australie, j'ai travaillé sur les montagnes en Suisse, puisque j'ai aussi envie de dire le paysage un peu dans tous ces états. Et en partant dans les années 80 de paysages qui étaient peu représentés, des paysages un peu en devenir, et maintenant petit à petit revenir sur des paysages finalement qu'on ne regarde plus, qui étaient dits comme pittoresques à une certaine époque, mais en fait c'est la manière de regarder qui sans doute... Disons que ce qui est intéressant, c'est la manière de regarder et d'observer ces territoires.
Est-ce que tous les paysages ont une âme ?
Pour moi, le paysage état d'âme n'est pas du tout la question qui m'intéresse. Je veux dire, je serais plutôt du côté de Pessoa, et c'est pour ça que j'avais intitulé un de mes livres, ce qui était une confrontation entre l'Islande et la Namibie, le dehors absolu. L'idée d'une extériorité absolue, et parce que ce n'est pas le paysage qui parle à l'âme, c'est le paysage est quelque chose de complètement extérieur que l'on va recevoir et qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de décrire le plus précisément possible une émotion et une sensation que j'ai eue face à un lieu. Et pour moi, ça va être la restitution la plus exacte possible entre un sujet, qui est la représentation d'un lieu, certaines couleurs et certaines lumières. Et quand ces paramètres sont uniques, je commence à photographier. Et ce qui va m'intéresser, c'est quand ces lieux vont faire écho chez les autres.
Dans la quarantaine de photographies présentées à l'exposition Salle Comtesse de Caen, il y a beaucoup de douceur dans les couleurs que vous avez choisies. Enfin, parce que vous pouvez parler de cette palette ou ce chromatique-là.
Alors c'est ce que je disais justement à l'instant, c'est que la couleur est un élément vraiment essentiel dans mon travail, mais il n'est pas une fin en soi. La couleur, elle est toujours au service d'une représentation et elle est un peu comme une peau du monde dans ce travail, puisque moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir aussi un regard sur notre environnement proche ou lointain, d'écrire le paysage, puisque le paysage dit beaucoup de choses, c'est une espèce d'étendue déposée dans le temps. Donc j'évite justement des couleurs trop anecdotiques ou trop contrastées, donc ce qui m'intéresse c'est justement ces harmonies de couleurs que je vais trouver dans notre environnement le plus proche. En fait, ce sont des paysages qui sont finalement très très silencieux, qui ont une certaine retenue, paysages pour lesquels j'essaie de trouver la distance la plus juste pour les dire. Je me dis que face à ces lieux, c'est ce type de couleur, ce type de lumière et ce type de sujet va à l'encontre et tout un travail sur l'épure, sur l'effacement, sur une dédramatisation. Finalement, à partir de quelque chose de très réaliste, je vais décrire précisément, par une méthode, disons, d'épure, je vais les déréaliser et créer tout un mystère.
Merci Thibaut Cuisset.
Je vous remercie.
Retrouvez ces photos à l'Institut de France, salle Comtesse de Caen, du mardi au dimanche, du 22 octobre au 21 novembre. L'exposition est en accès libre. Parmi l'actualité des académiciens, signalons que le cinéaste Roman Polanski a remporté pour son film « The Ghostwriter » le Grand Prix 2010 de la Fédération internationale de la presse cinématographique. En peinture, signalons l'exposition personnelle du peintre Georges Mathieu au château de Boulogne-sur-Mer jusqu'à la fin de l'année 2010. Plus bref dans le temps, pour un mois et demi, à Lyon, le peintre Vladimir Velikovic expose toiles et dessins à la galerie Palade. Son exposition, intitulée « Du simple fait de vivre », est à voir du 14 octobre au 27 novembre 2010. Le peintre Guy de Rougemont, membre de l'Académie, présente une exposition intitulée « Pastel d'hier et d'aujourd'hui en deux et trois dimensions » à la galerie Ambursin-Boissauté à Montpellier du 17 octobre au 17 novembre. Ceux d'entre vous qui voyagent peuvent encore voir à l'exposition universelle de Shanghai jusqu'au 31 octobre le fameux triptyque « Hommage à Claude Monet » février-juin 2010, réalisé par le grand peintre membre de l'Académie, Zhao Wuqi. L'œuvre est présentée dans le pavillon de la France à l'exposition universelle. Du côté des architectes de l'Académie, signalons l'exposition de Jacques Rougerie, intitulée « Sur le fil bleu de Jacques Rougerie », une exposition que vous pouvez voir au Stade aquatique de Vichy, Val d'Allier-Bellerive, dans l'Allier. Par ailleurs, Jacques Rougerie dédicacera son livre « De 20 milieux sous les mers à 6 orbitaires » à la librairie Prado Paradis à Marseille. C'est le 25 novembre 2010 à 16h. À partir du 25 novembre, d'ailleurs, se tiendra à Marseille l'exposition « Demain la mer », parcours croisé entre Jacques Rougerie et Henri-Germain Delauz à l'Hôtel de Région à Marseille. En dehors de l'Académie, dans l'actualité des arts à Paris, Canal Academy s'est arrêté au musée de la vie romantique le temps de découvrir la peinture russe du début du XIXe siècle. Daniel Marchesso, le directeur du musée, présente cette exposition « La Russie à l'époque romantique » de Gogol à Pouchkin, chef-d'œuvre de la galerie Tretiakov. Vous avez tout le temps pour voir cette exposition à Paris puisqu'elle dure jusqu'au 16 janvier 2011.
Le musée de la vie romantique a présenté à plusieurs reprises des expositions autour du romantisme en dehors de France. On présentait les dessins romantiques allemands, on avait présenté William Blake, bien que ce soit au Petit Palais, c'est une exposition du musée de la vie romantique. Et lorsque l'année France-Russie s'est dessinée, il paraissait évident de montrer la Russie romantique. La Russie romantique, pourquoi ? Bien, c'est que d'abord on ne la connaît pas, et qu'au fond, le romantisme en France, en Angleterre ou en Allemagne n'a rien à voir avec la période romantique en Russie. Pourquoi ? C'est que, effectivement, l'ensemble de ces tableaux, 72 chefs-d'œuvre venant de la galerie Tretiakov, un seul lieu, la célèbre galerie Tretiakov de Moscou, présente, en dehors peut-être des deux ou trois noms que chacun peut connaître, comme Brioulov ou comme Tolstoï, montre beaucoup d'artistes qui, pour certains, ont fait le fameux grand tour, ont été formés donc pendant leur séjour en Italie, mais pour d'autres, pas vraiment, et qui ont complètement digéré les influences de la fin du XVIIIe, essentiellement français, allemand et italien, pour trouver une identité propre. Et cette identité propre, elle se caractérise par trois genres, le paysage du territoire, de l'immense territoire russe, le portrait avec à la fois, je dirais, le pouvoir en place, le pouvoir impérial, la cour, et puis naturellement quelques grandes figures, parmi lesquelles naturellement Gogol, Pushkin, mais aussi Joukovsky, mais aussi Koukolnik, enfin des figures littéraires que l'on connaît moins ici. Et puis un genre très particulier, extraordinairement séduisant, qui est évidemment la peinture d'intérieur, et qui montre bien, à la différence justement des toiles officielles un petit peu, je veux dire, régaliennes, que sont des effigies officielles, ce qu'est l'intimité d'une certaine bourgeoisie, campagnarde, citadine, qui vit au fond à l'intérieur de ces murs, avec un esprit très Biedermeier, et qui est évidemment un charme considérable. Et puis sur le plan des sculptures, nous avons quelques sculptures qui représentent les grandes effigies du pouvoir.
Du côté de la sculpture, une centaine d'œuvres de Denis Monfleur sont présentées à la ferme ornée de la propriété Caillebotte à Hyères, en Île-de-France. Denis Monfleur a reçu il y a déjà plusieurs années, en 2003, le prix de sculpture Pierre Cardin. Vous découvrirez à Hyères des sculptures de pierre et des gravures qui donnent le ton et la mesure de l'œuvre granit de Denis Monfleur, à voir jusqu'au 12 septembre 2010. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau numéro de Sur le pont des arts. L'architecture, cette fois, promet de faire parler d'elle.